Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Nina Ramen, qui est la queen du copywriting sur LinkedIn. Elle a aussi une newsletter suivie par plein d'abonnés pour vous aider justement à devenir meilleur en copywriting. Elle a plein de projets annexes. Ce podcast a été enregistré il y a quelques mois, c'est pour ça que dans le podcast, elle dit qu'elle est encore chez Germinal, mais elle n'est plus chez Germinal. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Nina et de moi-même pour ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Hello Nina, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Indiepreneur. Ça me ferait très plaisir de te recevoir parce que ça fait longtemps que je suis un peu tes aventures, que ce soit toute seule ou même chez Germinal, sur LinkedIn principalement. Première question que je pose à tous mes invités, je voulais savoir qui est-ce que c'était Nina Ramen jeune. C'était quoi sa personnalité, qu'est-ce qu'elle aimait faire, etc.
Très marrant comme question. Merci de m'inviter déjà, Théo, c'est super cool. Alors, pour te répondre, Nina Ramen jeune n'est pas du tout la Nina Ramen d'aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais plutôt quelqu'un de réservé, voire de timide. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais pas souvent et ni facilement la parole, contrairement à ce que je fais là, par exemple. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. À l'inverse, je suis restée quelqu'un d'introverti. C'est-à-dire qu'en fait, je puise mon énergie quand je suis seule. Et moi, je passe 70% de mon temps libre à regarder des vidéos sur YouTube, et lire des livres et des articles. Donc, c'est pas des activités où je suis beaucoup en interaction avec les autres. Et ça, je pense que j'avais cette personnalité déjà quand j'étais petite, mais qu'elle a été doublée du fait que j'étais aussi timide, ce que je suis plus aujourd'hui, ou en tout cas, cette appréhension de parler en public, je l'ai dépassée. Et d'ailleurs, je pense que ça a un lien aussi avec le copywriting, parce que écrire, c'est un moyen de s'exprimer sans avoir besoin de prendre la parole en public. Prendre la parole en public, c'est la première peur des gens. C'est avoir la peur de mourir. Et cette blague qui dit, la plupart des gens ont plus peur de faire l'office de la personne à un enterrement que d'être la personne qui est enterrée. Bah, en fait, j'avais vraiment cette peur de prendre la parole et je pense que c'est aussi relié à mon écriture. Donc, pour répondre à ta question, j'étais quelqu'un d'assez introverti et plutôt timide. Dernière chose aussi, c'est que j'étais très, très, très confrontée au monde des adultes. J'étais chimique, donc j'ai passé beaucoup de temps avec les adultes. Et troisième chose, j'ai passé du temps en thérapie quand j'étais petite. J'ai vécu plein de trucs dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée avec des psys très tôt. Et ça aussi, ça a eu une influence sur le copywriting parce que je pense que ça m'a donné des clés de décryptage sur la psychologie humaine, sur la mienne. En fait, quand tu te comprends toi psychologiquement, ben en fait, ça te donne des clés aussi pour comprendre les autres. Donc, je pense que c'est ces trois éléments-là qui m'ont plus influencé. Le premier, le fait d'être introverti. Le deuxième, le fait d'être beaucoup avec les adultes, donc des gens qui ne sont pas dans mon univers. Et troisièmement, ben, d'avoir eu un rapport avec tout ce qui est psy et thérapie très, très, très jeune.
Et c'est vrai que ça t'amène du coup mieux savoir te connaître toi, ça t'amène à être un peu plus empathique, mieux comprendre les gens. C'est marrant parce qu'on a un peu un parcours assez similaire là-dessus. Pareil, j'ai vu plein de psy, etc., enfant précoce, donc pareil, assez introverti et tout. Donc je connais exactement ce que tu dis et je pense que ça doit énormément te servir dans le copywriting parce que vraiment, comprendre les gens, avoir cette empathie, surtout si t'es confronté justement à ce monde-là, ce monde très adulte, tu dois pouvoir comprendre des trucs plus vite que les autres, etc., surtout quand t'es petit. Donc, hyper intéressant. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu as fait ensuite? On a Nina Ramen jeune, timide, introverti. Comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles épreuves tu as rencontrées? Voilà, raconte-nous un peu ton background.
Alors, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie. Donc, je suis diplômée d'une double licence en chimie et en bio et d'une école de chimie. Au passage, avant d'obtenir mon diplôme en chimie, je suis passée par les cours Florent.
Ah, très cool.
Qui est une, ouais, voilà, exactement, qui est une école de théâtre qui est assez reconnue. Et ce qui est intéressant dans le fait d'être passé par les cours Florent, c'est que ça m'a fait dépasser aussi cette Nina qui était petite et en fait j'ai appris aussi.
Tu y allais quand au cours Florent, juste?
J'étais en 2016.
Ok.
Et bon, sans transition, j'ai fait une école de chimie et en fait, mon stage de fin d'études, je me suis retrouvée chez L'Oréal. Et à l'époque, en fait, c'est un peu le Graal, L'Oréal, ils sont venus dans mon école d'ingénieur pour recruter des gens. Ils sont faits Paris-Lyon, j'étais à Lyon, en train, à trois salariés de chez L'Oréal, juste pour aller recruter des gens dans mon école. Ils nous ont fait une journée de test pour recruter les meilleurs, enfin, je sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas pour recruter des gens. Et en fait, c'est un peu Koh-Lanta, genre à la fin, il n'en restera qu'un. Et à la fin, c'était moi. Et du coup, ils m'ont recruté pour un stage. Tout ça pour un stage.
C'est déjà important parce que quand t'as rien, avoir un stage chez L'Oréal, après, ça t'ouvre pas mal de portes.
On pourrait penser. Donc, tu vois, moi, je me dis un peu, waouh, t'as cette espèce d'image qui est renforcée par les écoles d'ingénieurs et de commerce aussi qui sont, ok, les grands groupes, c'est un peu le Graal. Avoir un CDI chez L'Oréal, c'est un peu le Graal ou chez Sanofi ou, tu vois, j'étais en chimie. Donc, c'était L'Oréal, Sanofi. ou Bayer, tu vois. Et en fait, je me retrouve en stage chez L'Oréal. Et là, je suis hyper contente dans le sens où je rencontre des gens géniaux. C'est-à-dire qu'ils sont très bons dans le recrutement parce qu'ils arrivent à recruter des gens, des stagiaires qui se ressemblent. Donc on avait une vraie culture de stagiaires. J'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais très très bien. Mais à contrario, en fait, moi je kiffais pas du tout. En fait, L'Oréal, c'est un des endroits, comme tous les grands groupes, où la loi de Pareto s'applique énormément. C'est-à-dire qu'en fait, t'as 20% des gens qui ont 80% d'impact et 80% des gens qui ont 20% d'impact. Et quand t'es stagiaire, bah, t'as beaucoup de chance d'être dans les 80% qui ont 20% d'impact. Plus dans un grand groupe et plus en fait cette loi est vraie. Et donc en fait, j'avais le sentiment de servir à rien. En tout cas, je me reconnaissais pas. Et puis deuxièmement, je me suis posé la question du sens de ce que je faisais et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler à fabriquer des crèmes, quoi? Enfin, genre, est-ce que c'est vraiment mon kiff ou pas? Et troisième raison, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvée à faire de la chimie par hasard. Mais vraiment par le plus grand des hasards, moi je voulais faire psy quand j'étais petite. Donc là je fais un petit retour en arrière, je me fais faire psy. Et en fait, j'ai commencé à faire médecine, j'ai fait « mais vous êtes des grands malades ». En fait, dans un amphi, dans un contexte en fait hyper compétitif, donc j'ai laissé tomber. Et en fait, j'ai juste repris des études dans lesquelles j'étais hyper bonne, des matières dans lesquelles j'étais hyper bonne, c'était la chimie et la bio. J'avais eu plus de 18 au bac, je me suis dit « bah vas-y, on parle là-dessus ». Mais à la base, c'était pas du tout par conviction, c'était surtout là où j'étais bonne. Et deuxième chose qui m'a aussi beaucoup poussée à faire ça, c'est que j'ai un père qui m'a dit « bah écoute Nina, tu feras des études excellentes ». Et en fait, la licence de psycho, c'était pas vu comme une voie assez valorisée. Et donc, je me voyais pas en fait faire une plaque de psycho, alors que peut-être c'est ce que j'aurais le plus kiffé faire à l'époque. Donc tu vois, c'est un peu un concours de circonstances où je me suis retrouvée chez L'Oréal à la fin de mes études et dans un stage qui me plaisait pas.
Mais au final, je trouve que cette réflexion que tu as eue, c'est quelque chose que je vois énormément autour de moi, parce que c'est un peu la tranche d'âge qui veut ça, que ce soit chez mes proches, amis, etc. Surtout ceux qui sont en CDI, et peut-être que le Covid a aussi aidé à ça. Mais c'est l'âge où tu remets tout en question, tu te dis « mais est-ce que les études que j'ai faites, elles servent pas à rien finalement, parce que ce que je fais, ça me plaît pas? Est-ce que je dois pousser et au final garder un truc qui me plaît pas, ou est-ce que je dois quitter ?» Mais en même temps, quand t'as le confort du CDI, etc., t'as pas forcément envie de quitter. Tu t'es posé des questions finalement sur ce que tu voulais faire, sur ta place, etc., relativement tôt, je trouve, si tu l'as fait aussitôt que dès ton premier stage. Comment est-ce que justement ça a conduit à la suite germinale, etc.?
Ouais. La question, c'est est-ce que j'ai fait ces études-là pour moi ou pour mes parents? Je pense que c'est la question la plus déterminante, du coup je la partage, mais c'est un peu ça la question. Donc oui, clairement, on arrive donc chez L'Oréal, fin d'études, et là je me dis bon, va falloir que je trouve un job. Et je voulais pas forcément rester chez L'Oréal, et là je me retrouve comme toutes les personnes qui sont étudiants, qui finissent leurs études, au chômage. Mais sans toucher le chômage. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, un jour, il y a un mec qui m'a contacté, qui m'a dit « Hey, tu veux faire du recrutement ?» Je fais « mais en fait, je suis pas du tout recruteuse, moi, je fais de la chimie. » Il me dit « ouais, mais en fait, on cherche des gens qui ont le background ingénieur, donc scientifique, et on va leur apprendre à faire du recrutement, parce que vous, en tant que tech, genre de l'ingénierie, vous comprenez, donc en fait, tu vas aussi créer en fait ce lien-là avec des candidats et sur la partie technique. Donc vas-y, viens. » Moi, de toute façon, c'était soit ça, soit je continuais à regarder Les Amours tous les jours, à 13h sur mon canal.
Très bon programme.
Voilà. Je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas, vas-y, je vais aller bosser. En plus, ça me sortait un peu de la chimie, et moi, je voulais tester aussi autre chose. Et donc, je me suis retrouvée à faire du recrutement. J'ai touché à plusieurs domaines. Le premier, c'est la vente, parce que j'étais consultante en recrutement. Consultant, ça veut dire commercial, en fait. Moi, j'avais une grosse composante commerciale. Donc, j'avais une grosse partie qui était sur mes chiffres, en fait. Donc, très vite, dès que je suis rentrée dans le monde du travail, j'avais des objectifs chiffrés, et je devais vendre. Et la deuxième partie, c'était, ben, une fois que tu as signé ton contrat avec ton client, tu dois aller chercher ton candidat. Donc, j'avais vraiment ce lien de matching. Et comment tu vas chercher ton candidat? En général, sur LinkedIn. Petit indice sur la suite. Donc, chercher ton candidat sur LinkedIn, faire en sorte qu'il te réponde, parce que les candidats, en fait, ils ont autre chose à faire que répondre aux recruteurs. Enfin, c'est des gens qui ont un taf, voilà. Et faire le matching entre les deux. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une totale inadéquation entre les jobs qui étaient cherchés. Genre, moi, on payait 20 000 euros pour trouver un candidat, tu vois. Enfin, vraiment. Et en fait, le marché des candidats, enfin, il y a vraiment un truc qui se rencontre pas, quoi. Bon, bref. Et donc là, j'ai appris le commercial, un peu le copywriting, et je suis rentrée sur LinkedIn. Et donc, le job d'après, c'est que j'ai travaillé dans une boîte de formation. On enseignait aux gens à recruter. Je me suis rendu compte qu'en fait, le recrutement, c'est souvent traité par les RH. Et les RH, en fait, ben, c'est pas forcément leur priorité et c'est pas très valorisé. Et donc, je me suis mis à enseigner le recrutement. En gros, comment tu traites les candidats comme des gens sympas? Comment tu fais quand tu dois rater un poste hyper spécifique à 100K à recruter? Ou comment tu fais pour recruter tes restaurateurs? Comment tu fais pour recruter, je sais pas moi, ton serveur demain? Donc, t'as ça et puis le fait de répondre aux candidats et tout ça. Donc, j'ai enseigné et c'est là où j'ai commencé à tomber dans l'enseignement. C'est là où je suis tombée amoureuse de l'enseignement. Lorsque j'étais recruteuse, j'ai appris à recruter sur Internet, en fait. On m'a très peu enseigné le recrutement. J'ai appris sur le tas et j'ai appris sur Internet. J'ai appris en lisant des blogs, j'ai appris en écoutant des podcasts et j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube. Et moi, c'est vraiment mes canaux principaux d'apprentissage. Et donc, en fait, là, j'ai développé un lien avec l'éducation qui était totalement différent. différent qui était, c'est pas parce que tu sors d'école que tu arrêtes d'apprendre. Le diplôme va te donner la reconnaissance, mais il va pas forcément te donner les compétences. Donc moi, j'avais appris à être recruteuse en regardant YouTube et voilà. Et là, j'ai commencé à développer un lien avec l'éducation qui est, mais en fait, t'as pas besoin de demander l'autorisation. Si tu fais les choses et que tu as des résultats, et ben en fait, t'as pas besoin d'avoir un tampon pour qu'on te dise vas-y, ça. Après, le diplôme, il sert à valoriser, tu vois, pour l'extérieur. Mais toi, par rapport à toi-même, il suffit juste de dire vas-y, je vais commencer à recruter, je vais le faire, je vais apprendre et tout. Et puis une fois que t'es bon dans ce que tu fais, ben en fait, tu te lèves et t'es recruteur ou tu te lèves et t'es copywriter. Tu vois, y a pas un moment où il y a quelqu'un qui va arriver et qui va t'adouber et qui va dire voilà, c'est bon, tu es copywriter. Et en fait, ça a vachement conditionné la suite de mon parcours parce que ça m'a reformaté mon rapport à l'éducation. Et ça a été hyper libérateur parce que je me suis rendu compte que tout est rattrapable. C'est pas parce que j'avais fait des études dans un domaine que j'aimais pas qu'aujourd'hui ben je pouvais pas faire un métier que j'aimais pas, et que finalement tu peux apprendre à peu près n'importe quelle compétence sur Google à partir du moment où t'as les outils pour le faire. Et moi, je pense que avec mon parcours, ben, j'avais quand même pas mal de billes pour le faire.
Et du coup, si on remet des dates à ce moment-là de cette dernière expérience, on va dire c'est celle avant Germinal, c'est ça?
Donc ouais, c'est avant Germinal.
À ce moment-là, on est à peu près en quelle année et t'es resté combien de temps dans cette boîte?
Alors là, on est en 2018 jusqu'en 2020.
Ok.
Je pense que ça fait 3 ans à peu près. Ce qui est dingue, c'est que j'ai appris en 2 ans et demi plus que en... je pense que dans toute ma vie en fait. Et dans cette boîte-là, j'ai été commerciale, donc je vendais des formations en ligne, mais au téléphone. Donc je faisais vraiment du conseil pour aider les recruteurs à mieux faire leur job. Au commercial, je me suis rendu compte qu'en fonction du message que j'envoyais à mes clients, j'obtenais plus ou moins de rendez-vous. Enfin, c'est pas des clients, c'est des prospects. J'envoyais un message pour avoir un rendez-vous avec ces prospects sur 10 personnes. En fonction du message que j'envoyais, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 réponses. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, en fait, il y a un truc avec l'écriture. Parce que si t'as pas de rendez-vous, tu peux être le meilleur commercial du monde, tu vas rien closer du tout. Donc, il y a un enjeu avant d'être un bon commercial, c'est aussi de pouvoir obtenir des rendez-vous, tu vois. Mmh. Plus tu t'arrives à faire de rendez-vous et de rendez-vous qualifiés, et plus, en fait, tu vas closer derrière en termes de chiffre d'affaires. Là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc quand même par rapport à l'écriture. Et donc, c'est une boîte qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires juste avec du SEO, enfin, zéro budget pub. Et à ce moment-là, il y a une personne qui est partie au marketing, et donc j'ai pris le job au marketing. Et c'est là où, en fait, je suis vraiment tombée dans le marketing que moi, je connaissais pas du tout. Je savais même pas ce que c'était que le copywriting quand je suis arrivée chez l'école du recrutement. En fait, je connaissais même pas le copywriting, je savais pas ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'apprendre, et c'est en regardant vraiment des vidéos sur Google, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, j'ai pris le job au marketing, et ça, ça a fait un vrai boost parce que j'ai repris toute la communauté de recruteurs, toute la partie marketing, contenu gratuit. Et à partir de là, j'ai créé une machine à vendre, et notamment une machine à créer du rendez-vous pour les sales. Donc, mon but, c'était vraiment de faire le lien entre la communauté de recruteurs qui nous suivaient, il y avait à peu près 30 000 personnes, et bah, le produit qu'on vendait. Donc, comment tu transformes de l'amour des gens qui te suivent et qui t'aiment en des gens qui ont envie de t'acheter?
Transformer les mots en euros, ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, les mots, et puis aussi, tu vois, les gens, en fait, le contenu gratuit, la communauté, enfin... C'est comme faire une demande en mariage, en fait. Tu passes de quelqu'un que tu connais pas à quelqu'un que tu vas dire « Ah, vas-y, j'aime bien cette personne », et au fur et à mesure, ben... À la fin, t'as envie de faire quelque chose avec elle et tu concrétises et tu signes un contrat, tu vois. Mmh. Et ben en fait, c'est un peu pareil. Et tout le travail, c'est vraiment au marketing. En tout cas, moi, mon travail, c'était de transformer des gens qui ne nous connaissaient pas en gens qui nous aimaient tellement qu'ils avaient envie de nous acheter. Et là, je passais au sales et eux, ils faisaient le closing, tu vois. Côté sales aussi, ça m'a aidé à faire ce travail.
Et quand est-ce que ça a été le switch de « Ok, je travaille en marketing, etc. » à vraiment la Nina aujourd'hui, copywriter, t'établir toi en tant que copywriter? Parce que évidemment, je suppose que c'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Ça a été quoi ton processus de réflexion pour passer de ce stade avant à celui-là?
Justement, j'ai jamais eu de bénédiction de qui que ce soit pour me dire « Vas-y, tu es copywriter. » En fait, il s'est passé qu'en étant commercial, j'écrivais un peu. Parce que je faisais des rendez-vous clients, donc je faisais de la prospection, donc voilà. Ensuite, j'étais au marketing, donc je gérais une newsletter toutes les semaines. Et finalement, j'ai commencé aussi à poster sur LinkedIn. Et ensuite, je me suis dit, bah c'est hyper intéressant l'écriture, j'ai envie de me concentrer sur ce canal. Et je me suis dit, bah j'étais copywriter en fait. J'ai commencé à avoir des résultats. Il y a aussi la phase où j'ai fait des emails quotidiens. C'est-à-dire que sur ma base de 30 000 personnes, alors il y a 5 000 personnes qui se sont inscrites aux emails quotidiens. J'envoyais des emails hebdomadaires, donc une fois par semaine. Je passais aux emails quotidiens avec deux appréhensions qui étaient « j'aurais plus rien à dire et puis les gens vont en avoir marre de moi ». Sauf qu'il s'est passé totalement l'inverse, et c'était au moment du confinement. Et il s'est passé totalement l'inverse, les gens ont adoré, ils ont tellement aimé que le jour où j'ai fait une offre commerciale, on a fait 500K de chiffre d'affaires.
Ok, pas mal.
En fait, ça a été, il y a eu deux tournants. Le premier, ça a été de passer au marketing, tu vois. Parce que le copywriting, ça reste une discipline bon, proche du marketing. Et la deuxième étape, ça a été d'avoir une réussite aussi palpable. Et la troisième chose, je dirais que c'est le lien que j'ai développé avec mon audience, les gens qui me suivent sur LinkedIn, mais aussi les recruteurs que j'avais sur ma newsletter. Et donc, à partir du moment où tu te rends compte que tu écris, que tu vends, tu arrives à transmettre une idée, parce qu'en fait, le copywriting, il y a aussi la dimension de vendre, mais il y a aussi la partie créer du contenu et d'engager les gens. En fait, c'est pas que de transformer des mots en euros, c'est comment tu crées de l'engagement, comment tu fais que en fait, les gens t'écoutent, que tu fais passer une idée et que, oui, tu peux t'en servir pour vendre, mais l'idée globale, c'est plus comment tu crées de l'engagement. Et en fait, bah, il n'y a pas eu de moment, donc c'est peut-être déceptif, ce que je vais dire. Mais il n'y a pas eu de moment où, en fait, je me suis dit, ça y est, je suis copywriter, j'apprends toujours, je lis toujours pour copywriting, j'essaie toujours de devenir meilleure. Malheureusement, en France, c'est pas énormément de contenu, mais je dirais que je suis devenue copywriter en écrivant énormément. Et deuxième challenge que j'ai fait, c'était un article par jour, dans 20 jours, c'était super dur. Il y a aussi un autre facteur, c'est que quand j'étais petite, j'étais très dyslexique. Puis deuxième chose, c'est que, en fait, à l'école, on t'apprend majoritairement à lire des auteurs qui écrivent de manière très, très, avec un style de dingue, genre Voltaire, Proust. Et du coup, ça te donne une image de l'écriture de, comme quelque chose d'inaccessible, en fait. Ouais. Et donc, il y a vraiment eu cette étape-là où j'ai compris qu'en fait, les écrivains, c'était juste des gens qui écrivaient. Et c'est pas parce que t'écris pas comme Proust que tu peux pas écrire et que, en fait, tu peux pas t'emparer de ton moyen d'expression. Et ça, ça a été un autre switch. Ça a été, OK, en fait, on va arrêter de vouloir écrire comme Proust. C'est juste qu'on nous a donné ces références-là, à mon sens, probablement à tort.
Pareil, je partage ton avis, je dis très souvent que c'est là où il y a un petit truc qui va pas selon moi, c'est qu'en fait on n'apprend pas aux gens à aimer lire, on leur apprend à aimer lire la liste de lecture de la prof quoi. Et ça c'est un vrai problème, moi c'était l'Iliade 1000 pages qu'on avait filé en 6e, ça m'avait calmé direct et ça m'a dégoûté en fait directement dès le premier livre de lire pour tout le collège quoi.
Et quel rapport à l'écriture tu vas développer en fait? Parce que ouais. Si lire te fait chier, t'auras pas envie d'écrire en fait. Parce que tu dis, vas-y, enfin, je vais pas écrire. Déjà, ça a l'air super dur parce qu'en fait, les mecs qui écrivent, genre, ça a l'air hyper compliqué. Et deuxièmement, mais en fait, j'ai pas envie d'emmerder les gens, quoi. Enfin, tu vois, j'ai cette amie qui est prof de français au collège et qui a fait étudier King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est un livre très féministe, très engagé et très loin. Enfin, déjà, c'est une femme qui a un style très dur, très rugueux, tu vois, et aussi très loin de ce qu'on étudie habituellement. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres
perspectives,
d'avoir d'autres textes, exactement. Et ça aide les gens aussi à s'emparer. Et il y a aussi autre chose par rapport à ça. Et c'est une de mes critiques aussi par rapport au système scolaire, c'est que, notamment la faute d'orthographe, on va stigmatiser beaucoup les gens qui font des fautes d'orthographe. Et c'est toujours un peu les mêmes qui font des fautes d'orthographe. Enfin, soit t'es dyslexique, enfin, tu vois, t'as plein de...
Non, et puis même, par exemple, moi, je me souviens des gens qui étaient avec moi en classe, qui étaient nuls en dictée. Même s'ils mettaient tous les efforts nécessaires pour apprendre, leurs notes en dictée leur plombaient la moyenne. Et à chaque fois, ils se retrouvaient avec une moyenne de merde en français, quoi.
S'il te plaît, la dictée, c'est la seule matière où tu peux avoir des notes négatives. Genre, ça fait moins pour toi. Genre, tu prends cher, en fait, tu vois. Tu prends des notes négatives. C'est un truc de malade, ce truc. Et en fait, ça stigmatise vachement les gens. Parce que les gens, ils n'ont plus envie d'écrire après. On leur a tellement gueulé dessus avec les fautes d'orthographe que forcément, en fait, ça te fait une friction. Et donc, ça crée que t'as qu'une poignée de personnes qui vont écrire. Et donc, du coup, qui vont aussi monopoliser un certain espace partout, soit sur les réseaux sociaux ou même dans les médias et tout. Donc, il y a vraiment cette partie-là où, en fait, j'ai admis que c'est pas parce que j'écrivais pas comme Proust que je m'arrêtais pas d'écrire. Et que les fautes d'orthographe, ben, il y a des correcteurs d'orthographe. Et puis, en fait.
Antidote.
Ça empêche pas les gens de comprendre le fond, quoi.
Et du coup, toi, si, par exemple, il y avait quelqu'un qui nous écoutait et qui se disait avoir une sensibilité pour écrire, etc., qui avait envie de se lancer dans l'écriture, tu lui donnerais quoi comme conseil? Et peut-être dans un deuxième temps, à l'inverse, comment est-ce que tu fais pour, par exemple, si quelqu'un cherche un copywriter pour faire quelque chose, comment est-ce qu'on trouve le bon copywriter? Comment est-ce que tu peux, par exemple, tu vas sur Malte, tu cherches un copywriter pour n'importe quoi, comment est-ce que tu arrives à trouver celui qui est très très bon de celui qui est un peu moins bon en fonction de l'objectif recherché? Évidemment, il n'y a pas de niveau totalement objectif, c'est relativement subjectif. Donc, si tu peux répondre à ces deux questions.
Si tu veux devenir copywriter, commence par écrire. En fait, tu peux pas vouloir courir un marathon sans transpirer, c'est pas possible.
Mais comment est-ce que tu arrives justement à avoir du feedback, à savoir juger si tu fais des progrès ou pas? Toi, personnellement, comment est-ce que tu as fait?
Avant de répondre à cette question, je vais juste décomposer mon process d'écriture qui pourra peut-être aider des gens qui veulent se lancer. Mais je pense que l'erreur de base, quand on veut écrire, c'est de se poser et d'attendre l'inspiration divine. Il y a ce mythe un peu de l'écrivain maudit, tu sais, qui va écrire et qui va écrire là, et puis qui va écrire des pages et des pages et des pages, tu vois. C'est un peu Carrie Bradshaw, tu vois, avant le suicide, tu sais, qui est là et qui écrit. En fait, toi, t'es là, genre. Mais moi, je m'assois sur ma chaise ou sur mon lit. Bon, déjà, j'ai pas l'air aussi stylé. Et en plus de ça, les mots, ils viennent pas comme ça. Donc, en fait, faut arrêter avec ce mythe. Il y a 4 étapes dans la création, notamment d'une copie ou d'un article ou d'un post LinkedIn. La première, c'est la phase d'idéation. La deuxième, c'est la phase de structuration. La troisième, c'est la phase d'écriture. Et la quatrième, c'est la phase de relecture et d'intégration. Une fois que t'as compris ça, t'as déjà fait un grand pas. il faut aussi admettre que tu peux pas faire deux phases en même temps. Tu peux pas à la fois écrire, structurer, en même temps corriger les fautes d'orthographe. Tu peux pas tout faire en même temps. C'est comme si tu devais marcher et courir en même temps, si tu devais nager et marcher en même temps, c'est pas possible. Parce que c'est pas les mêmes processus. La phase d'idéation, c'est une phase où moi, j'ai une application qui s'appelle Bear dans mon téléphone et je note toutes mes idées. Donc je note toutes les idées qui me viennent. Là, c'est, on a des conversations, tu vois, par exemple, dans cette conversation, on me dit « Ah bah ok, super intéressant, le lien entre le fait d'avoir suivi des thérapies et le fait d'être opérateur aujourd'hui. Ok, trop intéressant. » Je le prends, je le mets sur une note. Pareil, si je lis un livre, si j'écoute un podcast, je peux prendre toutes les idées qui me viennent. Toute la journée, il me faut moins de 10 secondes pour créer une note et je les garde et je les archive par thème. Et la phase de structuration, elle va venir quand je vais me dire « Ok, je vais écrire sur un post sur LinkedIn ou une copie ou un article. » Je vais prendre ce que j'avais archivé et je vais regarder en fonction du thème ce qui m'inspire le plus. Donc là, je vais écrire la structure grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3, avec un seul message à faire passer. Et il n'y a qu'à ce moment-là que la phase d'écriture intervient. Donc en fait, l'écriture vient à la fin d'un processus qui est beaucoup plus long que ce qu'on croit. En fait, l'écriture, c'est vraiment les 100 derniers mètres. Là, j'ai pris l'exemple d'un post LinkedIn, mais si j'avais pris l'exemple, et donc ça va permettre de répondre à qu'est-ce qu'un bon copywriter. Si je prenais l'exemple d'une copie ou d'une page de vente, ça sert à rien de commencer à écrire ta page de vente si t'as pas passé au moins 10 entretiens d'une demi-heure minimum. Moi, j'en ferais 30 avec tes personas, les personnes avec qui tu veux vendre. Parce que toi, t'as probablement une idée de leur problème et de la solution que tu pourrais leur apporter, mais les autres ne sont pas des autres toi. Donc le seul moyen de savoir les leviers qui vont vendre, qui vont faire passer ces gens à l'action, c'est de leur parler. Il y a trois choses à identifier, c'est leurs rêves, leurs freins et pourquoi ils font ça. Qu'est-ce qui arriverait s'ils n'y arrivent pas ? En fait, qu'est-ce qui se passerait s'ils n'y arrivent pas ? C'est toute la phase de R&D qui permet de rédiger une bonne copie. Et après, t'as la phase d'écriture et de relecture et puis etc. Et donc, pour identifier un bon copywriter, pour toi, il faut que t'arrives à évaluer à quel point cette personne va pouvoir entrer en empathie avec ta cible, en fait. Écrire bien sans faute d'orthographe, c'est bien, tu vois, mais c'est pas ça qui fait un bon copywriter. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui sait comprendre sa cible et appuyer sur les bons leviers de vente, en fait. Par exemple, tu vois, quand je vendais ma formation en copywriting, je me suis rendu compte en parlant avec ma cible que les gens, ils avaient majoritairement le problème de la faute d'orthographe, le syndrome de l'imposteur et le syndrome de la page blanche. Et donc, dans ma page de vente, quand j'ai commencé à vendre ma formation en copywriting, c'était des problèmes que je soulevais. Et je disais, bah, est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu ressens ça? Si oui, nous, ensemble, on va débloquer ce truc-là. Et à la fin de la formation, t'auras 10 idées de contenu à l'avance. T'auras publié un post par jour, tous les jours, parce qu'en fait, t'auras plus peur d'appuyer sur publier et de faire de la faute d'orthographe. Donc en fait, tu vas pouvoir apporter des réponses à leurs inquiétudes. Et donc, pour avoir un bon copywriter, il faut avoir quelqu'un qui est capable de rentrer facilement en empathie avec ses cibles. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de demander rapidement à la personne, soit de faire une mini-copie, que tu payes, hein, évidemment. Je ne travaille pas gratuitement. Soit sinon, juste de demander, moi, c'est ce que je faisais quand je voulais recruter, voilà mon produit, voilà mon persona, à ton avis, c'est quoi ses problèmes? Déjà, là, tu vas avoir une idée de à quel point la personne, elle arrive à comprendre ta cible. Et derrière, en fait, l'écriture viendra. Et évidemment, tu vas voir ce qu'il a écrit, si ça te correspond en termes de ton. Voilà. Moi, je sais que tout le monde pourrait pas travailler avec moi parce que j'ai un ton qui est assez clivant et assez direct. Et en fait, c'est sûr que si tu me mets chez L'Oréal, ça va mal se passer. Parce qu'en fait, L'Oréal, je suis un peu trop clivante, en fait. Et le but, quand une grande marque très établie, c'est pas d'avoir des gens clivants. Au contraire, c'est d'avoir plutôt des gens qui sont consensuels parce que, en fait, t'as établi une position et tu veux garder cette position. Alors que quand t'es dans une startup, tu veux conquérir. Et donc, du coup, t'as plutôt intérêt à rallier à toi des gens qui te ressemblent, en fait.
Ok, et du coup, toi, dans ton processus un peu créatif, comment est-ce que tu arrives à avoir un flux d'idées assez constant? Évidemment, je suppose que moi, c'est pareil avec les vidéos YouTube. Plus t'écris, plus tu fais de choses, plus t'as d'idées. Déjà, c'est la base. Donc, je pense que ça en fait partie. Mais après, il y a peut-être des astuces sur comment est-ce que tu écris plus vite dans le processus global, pas juste dans l'écriture. Est-ce que t'as des petites astuces comme ça pour soit aller plus vite, soit produire plus, soit avoir plus d'inspiration? Si t'as des petites pistes, même parler de battre le syndrome de l'imposteur, voilà, tous ces sujets-là, c'est quoi tes petites techniques un peu secrètes?
Si tu veux dire des trucs intéressants, consomme des trucs intéressants, lis des choses intéressantes, regarde des choses intéressantes. Il n'y a pas d'inspiration divine. Moi, tout ce que je dis, je l'ai lu, je l'ai entendu sur des podcasts, sur des vidéos et sur des livres. Et finalement, c'est pas grave de voler des idées parce que personne ne le dira de la même manière que toi. Et même si tu le dis de la même manière, tu n'auras pas les mêmes inspirations. Tu vas prendre en fait ce qui t'intéresse, je sais pas, chez Oussama Ammar, tu vas prendre ce qui t'intéresse chez Dave Gerhart, tu vas prendre ce qui t'intéresse chez, je sais pas...
Nina Ramen.
Nina Ramen, exactement. Et en fait, tu vas en faire quelque chose qui te ressemble. Et aucune création ne sera similaire. Même si nous deux, on a les mêmes inspirations, bah, en fait, on ne créera jamais quelque chose d'identique. C'est comme t'as le même papa, t'as la même maman, mais tu fais pas les mêmes enfants. Bah, c'est pareil. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je vais beaucoup consommer du contenu, je vais reformuler ce que je lis. En ce moment, tu vois, je suis en train de lire un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You. Mais en fait, c'est trop bien ce qu'il dit. Et donc ce que je vais faire, c'est faire mes articles et je vais juste réexpliquer ce que j'ai retenu du livre et je vais l'appliquer à moi, mes exemples, etc. Donc ça, c'est un bon moyen. Prends des choses qui t'inspirent et de les réécrire. Un deuxième bon moyen, si les gens ont du mal avec leur style de manière stylistique, qu'ils prennent quelqu'un qu'ils admirent et qu'ils aiment Et ils copiaient le style, en fait. Au bout d'un moment, tu seras plus dans la copie, puisque t'auras changé tes petits trucs, t'auras réaménagé et t'auras créé quelque chose de nouveau. La création ex nihilo, en fait, n'existe pas. Et la troisième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le processus de création, c'est l'idéation et avoir un outil qui te permet de stocker toutes tes idées. C'est un peu comme ton deuxième cerveau. Parce qu'en fait, les idées, elles s'envolent. Et d'ailleurs, les meilleures idées viennent sous la douche. Souvent. Ou à un moment où tu t'y attends pas. Voilà. Et en fait, il faut pas les laisser partir. Et donc, avoir un outil où tu vas stocker. Alors, moi, j'utilise Bear, mais ça peut être Evernote, ça peut être la note de ton téléphone, ça peut être t'envoyer un texto à toi-même, ça peut être Slack. Enfin, on s'en fout, en fait, de l'outil. L'idée, c'est simplement, quand t'as une bonne idée, de la formuler, de l'écrire et de pouvoir la retrouver le jour où t'as besoin de te lancer. Dernière chose, le syndrome de l'imposteur. Genre, c'est un peu un ego trip. Dans le sens où tu penses que tout le monde te regarde et tout le monde fait attention à ce que tu fais et du coup tu te sens pas légitime, machin. C'est très 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 se regarder le syndrome de l'imposteur. Moi je sais que je l'ai beaucoup vécu. La première chose à dire c'est que tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Mais vraiment. Nous on est la personne la plus importante de nos vies. C'est tout. Il y a peut-être nos parents, genre, ils sont encore là, tu vois, mais globalement c'est un peu ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as tout intérêt à publier. Parce que, en fait, si tu rates, il va rien se passer. Tu vois, un post qui foire sur LinkedIn, il n'est juste pas vu. C'est un peu comme dans le métro. Toi t'as l'impression que t'as trébuché et que tout le monde t'a vu. Mais en fait, personne t'a vu, les gens, ils sont juste en train de continuer tout droit, genre, surtout si, tu vas à la défense, genre, c'est vraiment le truc le plus déshumanisé de la Terre. Donc, les gens sont complètement. Et toi, t'as juste, genre, trébuché et tu crois que tout le monde t'a vu. Mais en fait, c'est pareil, quand tu publies un article, en vrai, personne va le lire. Et dernière chose que je dis par rapport à ça pour illustrer ce propos, j'ai lancé ma newsletter perso, qui s'appelle Culottée, qui est destinée aux femmes pour aider les femmes à prendre la parole et à oser davantage. J'avais hyper peur de publier mon post LinkedIn parce qu'il parle de trucs assez perso et notamment le tabou des fausses couches et le tabou qu'il peut y avoir autour de la maternité pour les femmes. Donc j'avais hyper peur de publier et j'ai envoyé ça à mon meilleur ami et il m'a dit « Publie, de toute façon personne va lire ». Et vous, oui, ok, j'ai 25 000 personnes sur LinkedIn, mais sur le moment je l'ai cru. J'ai dit « Vas-y, j'affiche ». Et probablement que s'il m'avait jamais dit ça, bah j'aurais jamais publié. Mais il m'a dit « Mais personne va lire, arrête, vas-y, publie et puis on verra après ». Donc ça, c'est un excellent moyen de guérir. En fait, la plupart des gens n'ont pas peur d'écrire, mais ils ont peur de publier. Donc si vous avez peur de publier, dites-vous que, en fait, personne va lire. Et au mieux, tout le monde va lire, ça va être un succès de dingue, et là, vous regretterez pas d'avoir publié. Et ce qui est nul meurt, en fait. Les algorithmes sont assez bien faits pour que, en fait, si ce que tu fais est nul, ne crée pas d'engagement, que les gens ne le lisent pas, et ben en fait, c'est automatiquement pénalisé par l'algo, et en fait, ça meurt. Donc si tu te foires, personne ne verra.
Moi, j'ai un petit tips pour LinkedIn que je fais personnellement, pareil, qui bousille ce truc-là. C'est que, en fait, j'ai fait une espèce d'automatisation qui, en fait, envoie le post LinkedIn depuis ClickUp, qui est un outil de gestion de projet. Et en fait, du coup, je ne vois jamais LinkedIn. Je n'ouvre pas LinkedIn pendant une ou deux heures. Et ça, c'est pas mal. Franchement, je pense que c'est une bonne technique. Si on pouvait faire ça avec tous les médias, que ce soit YouTube, etc., ce serait parfait. Mais en tout cas, pour moi, ça marche pas mal. Parce qu'avant, t'avais toujours cette idée, putain, ça va pas marcher. Tu sais, t'as toujours ce réflexe, surtout quand tu débutes. Et après, avec le temps, bah, du coup, ça va mieux.
C'est comme monter sur scène, en fait. Et dernier truc aussi, c'est que se dire, au pire, si toi, t'es pas à l'aise avec ce que t'as écrit, tu supprimes, en fait. Et il n'y a pas de chose irréversible. En fait, il n'y a aucun risque à le faire. Vraiment, strictement aucun. À part, tu supprimes, bon, bah, voilà, t'auras essayé. Et puis un jour, tu feras un post. Moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé, hein. Je me suis dit, vas-y, je fais un post par jour tous les jours. Mais mon troisième post, il a fait 7000 likes. Alors que j'avais genre 500 abonnés, hein. Vraiment, un truc pas dingue. Et en fait, c'est parti comme ça. Au début, bah, je faisais 3 likes, 4 likes. Et puis un jour, il y a un truc, une licorne, genre, ça s'est sorti de là, on sait pas comment, tu vois. Genre, un truc improbable. Et c'est sorti, tu vois. Et là, je me dis, ah, ok, c'est intéressant. Et donc, j'ai regardé ce que je pouvais apprendre de ce post-là. Pourquoi celui-là, il a réussi et pas les autres? Et là, tu peux rentrer dans quelque chose où tu itères et tu refais marche.
J'avais aussi lu un article qui disait que les millennials regardaient entre 200 et 250 TikTok par jour. Donc voilà, si jamais vous avez peur de trébucher, etc., faut vous dire que vous êtes un parmi les 250 qu'ils ont regardé ce jour-là, parmi les plusieurs milliers qui regardent dans l'année. Donc voilà, au final, on est petit. Alors du coup, tu as parlé d'un truc qui m'a intéressé, sur lequel j'aimerais revenir. C'est justement Culottée, cette newsletter que tu as créée, je crois, très récemment. Pourquoi justement est-ce que tu as voulu aider les femmes à prendre la parole? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Je les ai toutes regardées, j'ai trouvé ça assez cool, pour être honnête. Moi, j'ai fait des jeux avant, donc ça m'a beaucoup parlé, le jeu des répliques. Je trouvais ça assez marrant et très bien pensé. Donc je pense que la créatrice du jeu a tout intérêt justement à le pousser, parce que c'est top. Et la deuxième question qui est un peu adjacente, c'est à quel moment ou à quel point tu auras estimé avoir eu de l'impact sur tes lectrices, peut-être tes lecteurs, hein, justement. Le but, c'est que ça amène tout le monde. Voilà, si tu peux nous parler un peu de cette newsletter, vas-y.
Merci pour ta question. Je vais commencer par la deuxième question. À partir de combien de personnes j'estime que j'ai réussi? En vrai, une.
Ouais, parce que je m'attendais à ça.
Si j'ai aidé une personne, une femme, à oser plus, à faire davantage, en réalité, c'est déjà énorme. Donc, il y a ça. Comme je te disais tout à l'heure, je voulais lancer Culottée et mon meilleur ami m'a dit « T'inquiète, personne va le lire ». Moi, je dis, ok, vas-y, en fait, si j'ai 50 inscrits, ça va être cool. Il se trouve qu'aujourd'hui, en 2 semaines, j'en ai eu 1000. Donc,
ah, bravo, à la déjà. Base,
ouais, c'était pas le sujet de combien je ferai de personnes, c'était le sujet de qu'est-ce que je veux faire. Et ça m'a obligée aussi à poser mon manifeste. Donc sur LinkedIn, en fait, j'ai un lien cliquable et mon manifeste. Et il y a aussi tous mes contenus gratuits dedans. Donc tout ce que j'ai fait cette année-là en 2021, tous les articles que j'ai écrits, toutes les newsletters que j'ai écrits, en fait, j'ai tout répertorié là. Et il y a une partie au début qui s'appelle mon manifeste. Et en fait, avoir écrit mon manifeste, ça m'a permis une chose, c'est de me poser et de comprendre pourquoi je fais ça. Alors aujourd'hui, je suis en CDI chez Germinal. Mais avant, j'étais à l'école du recrutement. Pourquoi je fais ça, en fait? Et une des raisons, c'était que je pense que l'éducation doit émanciper. Je pense qu'en fait, si tu sais apprendre, si tu apprends, tu es autonome. Et si tu es autonome, tu n'as plus besoin d'obéir. Imaginons que tu es en CDI. Si tu sais qu'à côté, tu as ton side project et que tu sais faire 10 cas par mois, ou même 3 cas, c'est même pas une histoire d'argent, mais même 2 cas par mois, en fait, ça te donne la liberté, aujourd'hui, d'être dans ton job, non pas parce que tu es dépendant de l'argent, mais parce que tu fais le choix. Mmh. Et ça, pour moi, c'est intimement lié à ta capacité d'apprendre. Parce que bah, si tu sais apprendre à entreprendre au sens large, à faire de l'argent, à monter un site internet, à monter une newsletter, à faire un podcast, si tu sais apprendre tout ça, parce que le savoir, il est disponible aujourd'hui, il est sur Google, si tu sais apprendre, en fait, tu sais tout. Et moi, j'ai pas pour prétention d'apprendre aux gens des choses. J'aimerais être l'étincelle qui leur donne envie après d'apprendre par eux-mêmes. Mmh. Et moi, c'est ça mon rôle, parce que je suis pas duplicable à l'infini. Il y a qu'une seule Nina et mon contenu, en fait, je le diffuse à que quelques personnes. Mais en fait, si j'arrive à juste être l'étincelle qui leur donne envie d'apprendre par eux-mêmes et qui les aide à apprendre par eux-mêmes ensuite, moi, je trouve ça assez génial. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, si tu peux faire, si tu sais apprendre, tu sais être autonome, si tu sais être autonome, tu n'as plus besoin d'obéir. Du coup, bah, le rapport de force est beaucoup plus équilibré. Que ce soit dans ton entreprise, mais que ce soit aussi si t'es freelance. Par exemple, il y a des gens qui sont freelance et en fait, qui sont tributaires des commerciaux qui leur apportent du lead et qui leur apportent des opportunités. Ou qui sont dépendants de Malte, par exemple, de plateformes qui prennent une commission, au passage, pour la mise en relation. Et en fait, si tu ne sais pas apprendre, en fait, tu restes dépendant de ces personnes-là. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir de commerciaux qui font de la part d'affaires. Je dis juste qu'il faut avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et après, tu décides en fonction. Mais au moins, tu n'es pas obligé. Et donc, ça, c'est mon grand pourquoi. Et en fait, pourquoi je voudrais le faire pour les femmes? Parce que je suis partie d'un constat simple qui est que la plupart de mes copines, elles osent pas demander une augmentation. Elles osent pas prendre la parole. Elles osent moins. Alors, je dis pas qu'il y a pas quelque chose à faire pour les hommes, probablement. Mais bon, j'ai fait aussi le choix. Et ça, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se poser. C'est qui t'as envie d'aider? Moi, j'ai envie d'aider les femmes. Voilà, point. C'est tout. T'as des gens qui ont envie d'aider d'autres gens. Bon, ok, c'est bien. Moi, j'ai envie d'aider les femmes. Et apporter ce que je peux. Parce que, bah, je suis partie du constat, ouais, comme je disais, qu'il y a beaucoup de tabous. Que, en fait, quand t'es petite à l'école, t'es au collège, tu te passes des tampons comme tu te passes de la drogue, genre, dans ta manche, comme ça, là, tu vois. Alors, je pense que, je sais pas si maintenant, ils le font encore, j'espère pas. Mais au même titre, le tabou autour des règles, bah, en fait, aujourd'hui, t'as un tabou autour de la maternité, autour de la fausse couche, t'as un tabou autour des femmes qui veulent pas d'enfants, t'as aussi beaucoup ça, t'as les inégalités qui existent dans le sens où, bah, quand à l'arrivée du deuxième enfant, on voit que les carrières des femmes sont quand même très très ralenties par rapport aux carrières des hommes qui, elles, sont poussées. Donc, en fait, voilà, pour moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent et que j'ai choisi. Pour le coup, j'aurais pu choisir autre chose, mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. Okay. Et c'est en ce sens-là que j'ai envie d'avoir de l'impact dans le monde. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi cette newsletter? Parce que je pense que j'ai quelques outils à partager. Et je me suis pas posé la question de qu'est-ce que elles peuvent m'apporter, je me suis posé la question de qu'est-ce que moi je peux apporter et à qui. Et en fait, c'est comme ça que j'ai construit la newsletter. Parce que, ben, voilà, j'ai appris à écrire, à prendre la parole, et je me dis, ok, vas-y, ça c'est quelque chose que j'ai appris, vas-y, viens, je peux le transmettre, en fait, tu vois. Et dans quel domaine je suis meilleure que 90% des gens? Alors c'est peut-être présomptueux comme ça de dire ça. Mais il suffit d'être 1% meilleur pour devenir meilleur que 90% des gens, parce que, en fait, ben, quand c'est pas ton job d'écrire tous les jours, c'est normal que tu le fasses pas bien, mais il suffit de faire un peu plus, parce que tu le fais au quotidien. Moi, j'écris 7 heures par jour, tous les jours, 365 jours par an, pratiquement. Donc oui. Et si je peux transmettre ça, 1% de ça, ben, ça peut être vachement cool.
Bah écoute, très cool. Franchement, moi, je te soutiens dans ta démarche. D'ailleurs, je vais aller m'abonner et j'invite les auditrices et auditeurs qui veulent faire pareil à y aller aussi. Peut-être parler un petit peu d'un sujet dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, c'est Germinal. Alors, qu'est-ce que tu fais déjà chez eux? Je sais que tu écris pour eux, tu écris notamment leur newsletter, mais peut-être tu peux prendre ça sous le prisme de la question. Pourquoi est-ce que, alors que tu as une following base, on va dire, assez importante sur LinkedIn, si tu es capable, on va dire, de trouver 1000 personnes pour te suivre sur Culotté, pourquoi est-ce que tu t'es pas établi en tant que freelance et pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller chez Germinal?
Parce que, encore une fois, c'est un choix. Moi, ce qui m'a fait kiffer chez Germinal, c'est deux choses. La première, c'est d'avoir un CEO, Grégoire, qui respecte le copywriting. Dans le sens où, en fait, tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact sur LinkedIn et qui a compris, en fait, le pouvoir de ce job-là, qui n'est pas forcément respecté partout. Parce qu'en fait, il y a des mondes dans lesquels le copywriter, c'est un peu genre la base, en fait, c'est le début de ta carrière et puis après, tu feras des vrais trucs, tu vois. Donc, en fait, c'est pas toujours très valorisé. Parfois, t'as genre des stages de copywriting, tu vois. Tu te dis, mais comment tu peux faire du copywriting?
Oui, et puis après, t'as même des mecs qui mélangent rédacteur SEO avec copywriter et qui mélangent tout, donc...
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. La première chose, c'est d'être dans une boîte où, en fait, le copywriting était respecté. Deuxièmement, J'ai eu envie d'apprendre. Javelin, ils sont très forts en acquisition et en acquisition payante. Moi, j'étais au niveau zéro de l'acquisition payante. Je travaille toujours pour une personne, c'est Nina Ramen. C'est-à-dire que, en fait, je vois aussi le monde en fonction des compétences que je peux acquérir. Et quand il y a quelque chose que je maîtrise pas et que je pense pourrait m'être intéressant, bah, je me dis, OK, cette boîte, elle a à m'apporter au niveau, bah, notamment de l'acquisition et du payant, que moi, je maîtrisais pas parce qu'à l'école du recrutement, on faisait tout en organique. Alors, c'était incroyable de faire 1,5 million de chiffre d'affaires juste en organique. Mais ça marchait super bien. Et dernière chose, c'est avec qui t'as envie de le faire. Et moi, j'étais recrutée par Jordan, avec qui il y a un feed de ouf, hein, on s'entendait très 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 bien. Et pour le coup, faut juste que tu sois avec des gens qui te fassent kiffer. Donc pour moi, c'est ça. C'est à quel point, genre, mon job est respecté dans la boîte. Enfin, mon job, enfin, respecté, c'est un grand mot de dire ça. Mais en fait, le coaching n'est pas connu de tout le monde. Et du coup, en fait, voilà, avoir des gens qui comprennent que c'est une expertise et qui sont pas genre juste en mode, vas-y, tu vas écrire et puis on verra. La partie, qu'est-ce que moi je peux en tirer? Et la troisième partie, avec qui tu le fais? Et est-ce que les gens avec qui tu fais ça, bah, te font kiffer? Et moi, c'est mon critère numéro un. Parfois, je fais un peu des missions en freelance. Enfin, je faisais surtout des missions en freelance. Premier critère, à quel point t'as envie de bosser avec la personne, en fait? Okay. Parce que tu as du temps avec eux. Donc, à quel point t'as te fait kiffer de bosser avec la personne, c'est tout. Et le kiff, en fait, je pense que j'ai de la chance pour ça. C'est que, effectivement, j'ai de l'attraction sur LinkedIn. Demain, si je veux prendre des missions en freelance, je peux. Du coup, je peux me permettre de me poser la question, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer?
Ok, bah, hyper cool. Je te propose de passer aux petites questions de la fin. Première question, et je vais essayer d'en mixer deux en une. C'est qui Nina Ramen en 2023, donc dans 2 ans? Et la question un peu sous-jacente, c'est j'ai cru voir des ébauches d'un livre qui sortirait bientôt en collab chez Germinal. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Je pense que ça fera un bon début pour tes plans vers 2023.
Ouais, alors Nina en 2023, je sais pas. En fait, pour te dire à quel point ma vie a changé en un an, je suis incapable de savoir ce qu'elle sera dans 2 ans. Je suis même pas capable de savoir ce que je fais demain. Genre, en fait, je suis très dans l'instant présent. Donc, j'ai une très faible mémoire du passé et j'ai une très faible capacité de projection, c'est-à-dire que je suis pas capable de prendre un billet d'avion à moins d'une semaine. En fait. Okay. Donc, mes potes, en fait, je leur dis, allez-y, prenez. Donc, du coup, je paye plus cher.
Oui, ça. Non,
parce que j'ai ce bug, en fait, on a tous nos bugs. Et ben moi, mon bug, c'est que je ne sais pas faire à plus d'une semaine. Donc, c'est hyper compliqué comme question, ce que tu me poses. Par contre, ce que je sais, c'est que j'irai là où ça me fait kiffer. Et aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est transmettre, m'adresser aux femmes, créer quelque chose autour de ça. Je sais pas encore ce que ça va devenir, tu vois. Je sais que je créerai autour de ça. Et le livre, c'est en cours d'écriture. Ça arrive, on y travaille. Parce qu'en fait, bah, ça fait beaucoup de choses. Germinal, plus le livre. La question, c'est vraiment priorisé. Donc, je sais pas te dire où est-ce que je serai en 2023. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que je ferai quelque chose qui me fera probablement encore plus kiffer. Et je serai meilleure qu'aujourd'hui. Je suis meilleure que j'étais hier et je suis moins bonne que ce que je serai demain. Le but, c'est de, en fait, c'est d'être toujours dans cette idée de s'améliorer tous les jours. Et donc, la seule chose dans laquelle je me projette, c'est que je sais que je serai meilleure dans ce que je ferai en 2023 et que je ferai quelque chose qui me fait kiffer.
Ok. Bon, bah, hyper cool. Dernière question, si tu avais le droit juste à une seule phrase pour pousser une étudiante ou un étudiant à créer du contenu, à se montrer, à écrire, ce serait quoi?
Partage ce que tu apprends. Partage ce que tu apprends parce qu'en fait, tu as l'avantage quand tu es étudiant d'être dans une position de naïf. Naïf au sens positif du terme, dans le sens où ça t'évite le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est quoi? C'est Nina, ça fait 5 ans qu'elle fait du copywriting et elle te parle de persona. Mais en fait, toi, si t'as jamais fait de copywriting et de marketing de ta vie, tu sais même pas ce que c'est qu'un persona, tu vois. Donc en fait, le problème des experts, et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand il y a des enseignants chercheurs, en fait, ils sont tellement experts dans ce qu'ils font, ils font ça depuis tellement longtemps qu'en fait, ils ont oublié ce que c'était que de débuter. Et donc, l'avantage que tu as quand tu es étudiant, c'est que tu es dans cette position où en fait, tu apprends. Et il y a un blogueur qui s'appelle Laurent Bria, qui s'est lancé, qui est vraiment super, enfin, pour moi, c'est le blogueur de référence, qui a un blog qui s'appelle Apprendre la photo. Et c'est marrant parce que lui, il l'a lancé quand il était étudiant. Et justement, en fait, pendant qu'il apprenait la photo, il enseignait la photo. Et il enseignait ce qu'il apprenait. Et donc, ça te permet aussi de te mettre dans une posture où t'es assez serein. Parce que tu te dis pas, je donne des leçons aux gens. Tu dis juste, je transmets ce que j'ai appris. Et donc, bah, on peut pas te dire, ouais, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu dis, ok, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Enfin, voilà, tu fais pas donneur de leçons. Et donc, toi, tu te sens plus confortable aussi de le faire.
Ok. Bon, bah, hyper cool. Merci beaucoup, Nina, d'avoir passé une petite heure avec nous sur le podcast Indiepreneurs. J'ai beaucoup aimé. J'espère que les auditeurs ont beaucoup aimé aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as des liens, etc., à partager pour qu'ils puissent te retrouver? Les peu nombreux qui te connaissent pas encore.
Bah, merci déjà pour ton invitation, Théo. C'était vraiment, vraiment super cool. C'est un très bon moment. Les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn, Nina Ramen, R-A-M-E-N, comme les ramen.
Meilleur plat du monde.
Voilà, exactement. Les nouilles japonaises. Et ils peuvent retrouver tout mon contenu dans la rubrique « Mon contenu » qui est sur ma page LinkedIn. Donc, c'est assez facile à retrouver. Et là, ils auront tout mon contenu, notamment sur l'entrepreneuriat, sur le copywriting et sur le fait d'oser quand on est une femme.
Ok, super. Bon bah écoute, merci beaucoup et puis je te dis à bientôt.
Merci à toi Théo. À bientôt.
Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à donner des notes et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se retrouve très bientôt sur le podcast Indiepreneurs pour un nouvel épisode. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.